Chapitre 6. Bohème de l'exil. Bien, bien, nous connaissons ça. How, yes, godam, shocking, c'est quand vous ne voulez ni payer ni répondre que vous vous servez de cette monnaie-là. Mais avec Bibi, ça ne mord plus. Réglons nos comptes, vieux filou. En vérité, ma sœur le beau, vous parlez à moi avec une véhémence. Et pour dire le mot véhémence, qu'il semblait très fier de compter dans son vocabulaire, car il le répéta deux ou trois fois de suite, Jitom Lévis renversé, le jabot tendu, disparaissait dans l'énorme cravate blanche de clergyman qui lui sanglait le cou. En même temps, sa prunelle se mettait à virer, virer, brouillant dans ses yeux bien ouverts sa pensée indéchiffrable, pendant que le regard de son adversaire, ondulant et rampant sous des paupières abaissées, répondait à la faconde coquine de l'anglais par la ruse, visible encore dans un museau de belette étroit et glabre. Avec ses cheveux clairs, frisés et roulés, ses vêtements aux serments noirs et montants, la correction de sa tenue circonspecte, Maître Lebeau avait quelque chose d'un procureur à l'ancien Châtelet. Mais comme il n'est rien de tel que les débats, les colères d'intérêt, pour faire sortir le vrai des natures, en ce moment, cet homme si bien élevé, poncé comme ses ongles, le savoureux Lebeau, coqueluche des antichambres royales, ancien valet de pied aux Tuileries, laissait voir le hideux larbin qu'il était, à Proguin et à la curée. Pour s'abriter d'une ondée de printemps balayant la cour à grande eau, les deux compères s'étaient réfugiés dans la vaste remise aux murs blancs, tout frais crépis, garnis à mi-hauteur de nattes épaisses qui protégeaient contre l'humidité les nombreux et magnifiques équipages alignés là, roue contre roue, depuis les carrosses de gala tout en glaces et en dorures, jusqu'au confortable Four in Hand, des déjeuners de chasse, au léger phaéton des courses, jusqu'au traîneau que la reine promenait sur les lacs par les temps de gelée, tous gardant, au repos, dans le demi-jour de la remise, leur physionomie fringante ou massive de bêtes de luxe, étincelantes et coûteuses, comme les chevaux fantastiques des légendes assyriennes. Le voisinage des écuries, dont on entendait les ébrouements, les ruades sonores contre les boiseries, la sellerie entr'ouverte, montrant son parquet ciré, ses lambris de salles de billard, tous les fouets au râtelier, les harnais, les selles sur des chevalets, en trophées autour des murs avec des éclairs d'acier, des enguirlandements de brides, complétaient bien cette impression de confort et de haute vie. Tom et Lebeau discutaient dans un coin et leur voix montait, mêlée au bruit de la pluie sur les trottoirs bitumés. Le valet de chambre, surtout, qui se sentait chez lui, criait très haut. Comprenait-on ce flibustier de Lévis? Et qui se serait douté d'un pareil tour? Quand leur majesté avait quitté l'hôtel des pyramides pour Saint-Mandé, qui donc avait préparé l'affaire? Était-ce Lebeau, oui ou non? Et cela, malgré tout le monde, malgré les hostilités les mieux déclarées. De quoi était-on convenu en retour? Est-ce qu'on ne devait pas partager par moitié toutes les commissions, tous les pots de vin des fournisseurs? C'était-il ça, voyons? Ah, oh yes, ce était bien cela. Alors, pourquoi tricher? Non, non, jamais tricher, disait J. Tom Lévis, la main sur le jabot. Allons donc, vieux blagueur, tous les fournisseurs vous donnent 40 du sang, j'en ai la preuve, et vous m'avez dit que vous touchiez 10. Ça fait que sur le million qu'a coûté l'installation de Saint-Mandé, j'ai, moi, mon 5 du sang, soit 55 000 francs, et vous, vos 35 du sang, c'est-à-dire 7 fois 50 000 francs, c'est-à-dire 350 000 francs, 350 000 francs, 350! Il étranglait de rage, ce chiffre en travers de la gorge comme une arête. Tom essayait de le calmer. D'abord, tout cela était bien exagéré. Et puis, l'agent avait des frais énormes. Son loyer de la rue Royale qu'on venait d'augmenter, tant de fonds dehors, les rentrées si dures. Sans compter que pour lui, ce n'était qu'une affaire en passant, tandis que Lebeau restait là toujours, et dans une maison où l'on dépensait plus de 200 000 francs par an, les occasions ne devaient pas manquer. Mais le valet de chambre ne l'entendait pas ainsi. Ses affaires ne regardaient personne, et bien sûr qu'il ne se laisserait pas carotter par une espèce de sale anglais. « Monsieur Lebeau, vous êtes un impertinent. Je ne voulais pas plus longtemps parler avec vous. » Et Tom Lévis faisait mine de gagner la porte. Mais l'autre lui barra le passage. S'en aller sans payer? Ah, mais non! Ses lèvres étaient pâles, son museau de belette enragé s'avançait, en grelottant, contre l'anglais, toujours très calme et d'un si exaspérant sang-froid qu'à la fin, le valet de chambre, perdant toute mesure, lui mit le poing sous le nez avec une injure grossière. D'un revers de main, vif comme une parade d'épée et qui donnait plus du joueur de savate que du boxeur, l'anglais lui rabattit le poignet et, avec un accent du plus pur faubourg Saint-Antoine, « Pas de ça, Lisette, ou je cogne » dit-il. L'effet de ces trois mots fut prodigieux. Le beau, stupéfié, chercha d'abord machinalement autour de lui pour voir si c'était bien l'anglais qui avait parlé. Puis son regard, ramené sur Tom Lévis, subitement très rouge et les yeux vibrants, s'alluma d'une gaieté folle où vibraient les soubresauts de sa colère de tout à l'heure et qui finit par gagner l'argent d'affaires lui aussi. Oh, sacré blagueur! Sacré blagueur! J'aurais dû m'en douter! On n'est pas si anglais que ça! Il riait encore, sans pouvoir reprendre haleine, quand derrière eux, la porte de la galerie s'ouvrit brusquement et la reine parut. Depuis un moment arrêtée dans la salle voisine où elle venait d'attacher elle-même sa jument favorite, elle n'avait pas perdu un mot de la conversation. Partie de si bas, la trahison la touchait peu. Elle savait de longue main à quoi s'en tenir sur le beau, ce valet Tartuffe, témoin de toutes ses humiliations, de toutes ses misères. L'autre, l'homme au cab, elle le connaissait à peine, un fournisseur. Mais ces gens-là venaient de lui apprendre des choses graves. Ainsi, l'installation à Saint-Mandé coûtait 1 million, leur existence, qu'ils croyaient si modeste, si restreinte, 200 000 francs par an, et ils en avaient 40 000 à peine. Comment étaient-elles restées si longtemps aveugles sur leur train de vie, l'insuffisance de leurs vraies ressources? Qui donc subvenait à toutes ces dépenses? Qui donc payait pour eux ce luxe, maison, chevaux, voitures, même ses toilettes et ses charités personnelles? Une honte lui brûlait les joues à cette pensée, pendant qu'elle traversait tout droit la cour sous la pluie, franchissait vivement le petit perron de l'intendance. Rosen, occupée à classer des factures sur lesquelles s'entassaient des piles de louis, eut une surprise en la voyant, un soubresaut qui le mit debout. « Non, restez » fit-elle la voix brusque et penchée sur le bureau du duc, où s'allongeait sa main encore gantée pour le cheval, résolue, pressante, autoritaire. « Rosen, de quoi vivons-nous depuis 2 ans ? « Oh, pas de détour. Je sais que tout ce que je croyais louer a été acheté en notre nom et payé. Je sais que Saint-Mandé tout seul nous coûte plus d'un million, le million que nous avons rapporté d'Illyrie. Vous allez me dire qui nous assiste depuis lors et de quelle main nous vient l'aumône. » La figure bouleversée du vieillard, le tremblement piteux de ses 1000 petites rides, avertit Frédéric. « Vous ? C'est vous ?» Elle n'y aurait jamais songé, et pendant qu'il s'excusait, balbutiant les mots « devoir, gratitude, restitution ». « Duc, dit-elle violemment, le roi ne reprend pas ce qu'il a donné et l'on n'entretient pas la reine comme une danseuse. » 2 larmes jaillirent de ses yeux en étincelles, larmes d'orgueil qui ne tombèrent pas. « Oh, pardon, pardon !» Il était si humble et lui baisait le bout des doigts avec une telle expression de regret triste qu'elle continua, un peu radoucie. Vous dresserez un état de toutes vos avances, mon cher Rosen. Un reçu vous en sera donné et le roi s'acquittera le plus tôt possible. Quant aux dépenses à venir, j'entends m'en charger dorénavant. Je veillerai à ce qu'elles n'excèdent pas nos revenus. Nous vendrons chevaux, voitures. On diminuera le personnel. Des princes en exil doivent se contenter de peu. » Le vieux duc eut un élan. « Détrompez-vous, madame, c'est surtout en exil que la royauté a besoin de tout son prestige. Ah, si l'on m'avait écouté, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans un faubourg, avec une installation tout au plus convenable pour une saison de bain, que vos majestés seraient venues vivre. Je les aurais voulu dans un palais, à la face du Paris mondain, convaincu que ce que les rois dépossédés ont le plus à craindre, c'est le laisser-aller qui les gagne lorsqu'ils sont rentrés dans le rang, les familiarités, le coudoiement de la rue. je sais, on m'a trouvé bien des fois ridicule avec mes questions d'étiquette, mon rigorisme enfantin et suranné. Et pourtant, ces formes sont plus que jamais importantes. Elles aident à garder la fierté de la tenue, si facilement perdue dans le malheur. C'est l'armure inflexible qui tient le soldat debout, même quand il est blessé à mort. Elle resta un moment sans répondre, son front pur traversé d'une réflexion qui lui venait. Puis, relevant la tête, « C'est impossible. Il y a une fierté encore plus haute que celle-là. J'entends que dès ce soir, les choses soient transformées comme je l'ai dit. » Alors lui, plus pressant, suppliant presque, « Mais votre majesté n'y songe pas. Une vente de chevaux, de voitures, une sorte de faillite royale. Quel éclat, quel scandale !» Ce qui se passe est encore plus scandaleux. Qui le sait? Qui s'en doute seulement? Comment supposer que c'est ce vieux ladre de Rosaine? Vous-même, vous hésitiez tout à l'heure. Oh, madame, madame, je vous en conjure, acceptez ce que vous voulez bien appeler mon dévouement. D'abord, ce serait tenter l'impossible. Si vous saviez, mais vos revenus d'une année suffiraient à peine à la bourse de jeu du roi. Le roi ne jouera plus, monsieur le duc. Ce fut dit d'un ton, avec des yeux. Rosaine n'insista pas. Pourtant, il se permit d'ajouter « Je ferai ce que désire votre majesté, mais je la supplie de se souvenir que tout ce que je possède est à elle et que, dans un cas de détresse, j'ai bien mérité qu'on s'adresse à moi d'abord. » Il avait la certitude que ce serait avant longtemps. Dès le lendemain, les réformes annoncées commencèrent. La moitié de la valetaille fut congédiée, les voitures inutiles envoyées au Tattershall, où elles se vendirent dans d'assez bonnes conditions, excepté les carrosses de gala, d'un tire-l'œil trop gênant pour des particuliers. On s'en défit cependant grâce à un cirque américain qui venait de s'installer à Paris avec un grand déploiement de réclames. Et ces voitures splendides que Rosaine avait fait faire pour conserver à des princes un peu de la pompe disparue et dans le lointain espoir d'un retour à Leibar, servirent à des exhibitions de naines chinoises et de singes savants, à des cavalcades historiques et des apothéoses à la Franconie. Vers la fin des représentations, sur le sable foulé de l'arène, aux mesures entraînantes de l'orchestre, on vit ces voitures princières, aux écussons à peine effacés, faire trois fois le tour des gradins, pendant que s'inclinaient au bord de leur glace relevée quelques figures grimaçantes et grotesques, où la tête abrutie dans une courte frisure, le buste tendu dans les mailles de soie rose, de quelques fameux gymnastes saluant la foule, le front luisant de pommade et de sueur. Toute cette défroque de sacre, tombée dans le paillon et la haute école, remisée parmi les chevaux et les éléphants prodiges, quel présage pour la royauté! Cette vente au Tattershall, pendant qu'on annonçait celle des diamants de la reine de Galice à l'hôtel Drouot, les deux affiches couvrant les murs fit quelque bruit. Mais Paris ne s'arrête pas longtemps aux mêmes préoccupations, ses idées suivent la feuille volante des journaux. On parla des deux ventes pendant 24 heures. Le lendemain, on n'y pensait plus. Christian II accepta sans résistance les réformes voulues par la reine. Depuis sa triste équipée, il gardait vis-à-vis d'elle une attitude presque confuse, humiliant encore cet enfantillage volontaire dont il semblait faire une excuse à ses fredaines. Que lui importaient d'ailleurs les réformes de la maison? Sa vie, toute de dissipation et de plaisir, se passait dehors. Chose étonnante, en 6 mois, il n'eut pas une fois recours à la bourse de Rosaine. Cela le relevait un peu aux yeux de la reine, satisfaite aussi de ne plus voir stationner dans un coin de la cour le cap fantastique de l'anglais, de ne plus rencontrer par les escaliers ce sourire obséquieux de créancier courtisan. Pourtant, le roi dépensait beaucoup, faisant la fête plus que jamais. Où trouvait-il de l'argent? Élisée le sud de la façon la plus singulière par l'oncle Sauvadon, ce brave homme auquel il donnait autrefois des idées sur les choses, la seule de ses anciennes relations qu'il eût gardées depuis son entrée rue Herbillon. De temps en temps, il allait déjeuner avec lui à Bercy, lui apporter des nouvelles de Colette, que le bonhomme se plaignait de ne plus voir. C'était cette Colette, son enfant d'adoption, la fille d'un frère pauvre, tendrement aimé et soutenu jusqu'à la mort. Toujours occupé d'elle, il avait payé ses nourrices et son bonnet de baptême, plus tard l'internat, dans le couvent le plus blasonné de Paris. Elle était son vice, sa vanité vivante, le joli mannequin qu'il parait de toutes les ambitions, grouillant dans sa tête vulgaire de millionnaire parvenu. Et lorsqu'au parloir du Sacré-Cœur, la petite Sauvadon disait tout bas à son oncle « Celle-là, sa mère est baronne !» ou « duchesse » ou « marquise ». D'un mouvement de ses grosses épaules, l'oncle millionnaire répondait « Nous ferons de toi mieux que ça !» Il la fit princesse à 18 ans. Les altesses en quête de dot ne manquent pas à Paris. L'agence Lévis en tient tout un assortiment, il s'agit d'y mettre le prix. Et Sauvadon trouva que 2 millions, ce n'était pas trop cher pour figurer dans un coin du salon, les soirs où la jeune princesse de Rosaine recevait, pour avoir le droit d'épanouir dans une embrasure, son large sourire à rebord d'écuelle entre ses courts favoris aux pompons démodés depuis Louis-Philippe. De petits yeux griffes, vifs et madrés, les yeux de Colette atténuaient un peu ce qui sortait de bègue, d'ingénu, d'incorrect, de cette bouche épaisse, inachevée, taillée dans la corne de cheval, et les révélations de ses grosses mains carrées qui, même dans des gants paille, se souvenaient d'avoir roulé des futailles sur le quai. Au commencement, il se méfiait, ne parlait guère, étonnait, effrayait les gens par son mutisme. « Dame, ce n'est pas à l'entrepôt de Bercy, dans le trafic des vins du midi coupés avec de la fuchine ou du bois de Campêche, que l'on apprend le beau langage. » Puis, grâce à Méraud, il se forma quelques opinions toutes faites, des aphorismes hardis sur l'événement du jour, le livre à la mode. L'oncle parla et ne s'en tira pas trop mal, à part quelques formidables pataquès à faire crouler le lustre et les farements qu'éveillaient autour de ce porteur d'eau en gilet blanc certaines théories à la Demestre pittoresquement exprimées. Mais voilà que les souverains d'Illyrie lui enlevaient à la fois son fournisseur d'idées et le moyen d'en faire parade. Colette, retenue par ses fonctions de dame d'honneur, ne quittait plus Saint-Mandé, et Sauvadon connaissait trop bien le chef de la maison civile et militaire pour espérer d'être admis là-bas. Il n'en avait même pas parlé. Voyez-vous le duc amenant cela, présentant cela chez l'altière Frédéric, un marchand de vin de Bercy, et pas un marchand retiré, mais en pleine activité au contraire, car malgré ses millions, malgré les supplications de sa nièce, Sauvadon travaillait encore, passait sa vie à l'entrepôt, sur le quai, la plume à l'oreille, son toupet blanc tout ébouriffé, au milieu des charretiers, des mariniers débarquant et chargeant des barriques, ou bien sous les arbres gigantesques du parc ancien, mutilés, dépecés, dans lequel s'alignaient ses richesses sous les hangars, en futailles innombrables. « Je mourrais si je m'arrêtais, » disait-il. Et il vivait en effet du fracas des barriques roulées et de la bonne odeur de vinaille montant de ses grands magasins en caveaux humides où il avait débuté 45 ans auparavant comme garçon tonnelier. C'est là qu'Élisée venait parfois retrouver son ancien élève et savourer un de ses déjeuners qu'on ne sait faire qu'à Bercy, sous les arbres du parc ou la voûte d'un cellier, le vin frais tiré à la pièce, le poisson frétillant dans le vivier, et des recettes locales de matelotes, comme au fin fond du Languedoc ou des Vosges. Maintenant, il n'était plus question d'idées sur les choses, puisqu'on n'allait plus en soirée chez Colette. Mais le bonhomme aimait à entendre causer Méraud, à le voir manger et boire librement, car il avait toujours devant les yeux le taudis de la rue Monsieur le Prince, et traitait Élisée comme un vrai naufragé de l'existence. Prévenance touchante d'un homme qui a connu la faim, pour un autre qu'il sait pauvre. Méraud lui donnait des nouvelles de sa nièce, de sa vie à Saint-Mandé, lui apportait le reflet de ses grandeurs qui coûtaient si cher au brave homme et dont il ne serait jamais témoin. Sans doute, il était fier de penser à la jeune dame d'honneur dînant avec des rois et des reines, évoluant dans un cérémonial de cour. Seulement, le chagrin de ne pas la voir augmentait sa mauvaise humeur, ses rancunes contre le vieux Rosaine. « Qu'a-t-il donc pour être si glorieux ? Son nom, son titre, mais avec mon argent, je me les suis payés. Ses croix, ses cordons, ses crachats, et je les aurai quand je voudrai. Au fait, mon cher Méraud, vous ne savez pas, depuis que je ne vous ai vu, il m'est arrivé une bonne fortune. Laquelle, mon oncle ? Il appelait mon oncle par une familiarité affectueuse, bien du midi, l'envie de donner une étiquette à la sympathie particulière, sans lien d'esprit, qu'il éprouvait pour ce gros marchand. « Mon cher, j'ai le lion d'Illyrie, la croix de commandeur, le duc qui est si fier avec son grand cordon. Au jour de l'an, quand j'irai lui faire visite, je me colle ma plaque, ça lui apprendra. » Élisée n'y voulait pas croire. L'ordre du lion, un des plus anciens, des plus recherchés en Europe, donné à l'oncle Sauvadon, à mon oncle. Pourquoi ? Pour avoir vendu du vin coupé à Bercy ? Oh, c'est bien simple, dit l'autre en frisant ses petits yeux gris. Je me suis payé le grade de commandeur comme je m'étais payé le titre de prince. Un peu plus, j'avais le grand cordon de l'ordre, car il était à vendre aussi. Où donc ? Fit Élisée pâlissant. Mais à l'agence Lévis, rue Royale, on trouve de tout chez ce diable d'anglais. Ma croix m'a coûté 10 000 francs, le cordon en valait 15 000. Et je connais quelqu'un qui se l'est offert. Devinez qui ? Biscara, le grand coiffeur, Biscara du boulevard des Capucines. Mais, mon bon, ce que je vous dis là est connu de tout Paris. Allez-vous-en chez Biscara, vous verrez au fond de la grande salle où il officie, au milieu de ses 30 garçons, une immense photographie qui le représente en Figaro, le rasoir à la main et le cordon de l'ordre en sautoir. Le dessin en est reproduit en petit sur tous les flacons de la boutique. Si le général voyait cela, c'est sa moustache qui lui remonterait dans le nez. Vous savez, quand il fait... Il essayait d'attraper la grimace du général, mais comme il n'avait pas de moustache, ce n'était pas ça du tout. « Vous avez votre brevet, mon oncle. Voulez-vous me le montrer ?» Élisée gardait l'espoir qu'il y avait là-dessous quelque tricherie d'écriture, un faux dont l'agence Lévis trafiquait sans scrupule. Non, tout semblait régulier, libellé selon la formule, timbré aux armes d'Illyrie, avec la signature de Boscovitch et la griffe du roi Christian II. Le doute n'était plus possible, il se faisait un commerce de croix et de cordons, établi avec la permission du roi. D'ailleurs, pour achever de se convaincre, Méraud, sitôt de retour à Saint-Mandé, n'eut qu'à monter chez le conseiller. Dans un coin du hall immense, qui tenait tout le haut de l'hôtel, servant de cabinet de travail à Christian, lequel ne travaillait jamais, de salle d'armes, de gymnase, de bibliothèque, il trouva Boscovitch parmi les casiers, les grosses enveloppes de papier bulle, les feuilles superposées où séchaient l'une sur l'autre les dernières plantes récoltées. Depuis l'exil, le savant s'était fait dans les bois parisiens de Vincennes et de Boulogne, qui contiennent la plus riche flore de France, un commencement de collection. De plus, il avait acheté l'herbier d'un fameux naturaliste qui venait de mourir, et, perdu dans l'examen de ses nouvelles richesses, la tête exsangue, sans âge, penchée sur le verre grossissant d'une loupe, il soulevait une à une, avec précaution, les pages lourdes entre lesquelles apparaissaient les plantes, de la corolle aux racines étalées, aplaties, leurs nuances perdues sur les bords. Il poussait un cri de joie, d'admiration, quand le spécimen était intact, bien conservé, le considérait longtemps, la lèvre humide, lisant à haute voix son nom latin, sa notice écrite au bas dans un petit cartouche. D'autres fois, une exclamation de colère lui échappait, en voyant la fleur attaquée, perforée par ce ver imperceptible, bien connu des herborisateurs, atome né de la poussière des plantes et vivant d'elles, qui est le danger, souvent la perte des collections. La tige se tenait encore, mais dès qu'on remuait la page, tout tombait, s'envolait, fleurs, racines, en un mince tourbillon. « C'est le ver, c'est le ver !» disait Boscovitch, la loupe sur l'œil. Et il montrait, d'un air à la fois désolé et fier, une perforation semblable à celle du taré dans le bois, indiquant le passage du monstre. Élisée ne pouvait garder aucun soupçon. Ce maniaque était incapable d'une infamie, mais aussi de la moindre résistance. Au premier mot des décorations, il se mit à trembler, regardant de côté par-dessus sa loupe, craintif et méfiant. Que venait-on lui dire là ? Sans doute le roi, ces derniers temps, lui avait fait préparer une quantité de brevets de tout grade avec le nom en blanc, mais il ne savait rien de plus et ne se serait jamais permis de rien demander. « Eh bien, monsieur le conseiller, dit Élisée gravement, je vous préviens, moi, que Sa Majesté fait commerce de ses croix avec l'agence Lévis. » Là-dessus, il lui conta l'histoire du barbier gascon dont s'amusait tout Paris. Boscovitch poussa un de ses petits cris de femme, au fond très peu scandalisé. Tout ce qui n'était pas sa manie ne l'intéressait guère. Son herbier, laissé à Leibar, représentait pour lui la patrie, celui qu'il préparait, l'exil en France. « Voyons, mais c'est indigne! Un homme comme vous prêtait la main à d'aussi hideux tripotage !» Et l'autre, désespéré qu'on lui ouvrit les yeux de force sur ce qu'il n'avait pas voulu voir. « Maquet, maquet, qu'est-ce que j'y peux faire, moi, mon bon monsieur Méraud? Le roi, c'est le roi. Quand il dit « Boscovitch, écrit ça », ma main obéit sans penser, surtout que Sa Majesté est si bonne pour moi, si généreuse. C'est elle qui, me voyant désespéré de la perte de mon herbier, m'a fait cadeau de celui-ci. 1500 francs, une occasion magnifique. Et j'ai eu par-dessus le marché l'Hortus Cliffortianus de Linné, édition Princeps. » Naïvement, cyniquement, le pauvre diable mettait sa conscience à nu. Tout était sec et mort, couleur d'herbier. La manie, cruelle comme le ver imperceptible des naturalistes, avait tout perforé, rongé de part en part. Il ne s'émut que lorsqu'Élisée le menaça d'avertir la reine. Alors seulement, le maniaque lâcha sa loupe et, à voix basse, avec de gros soupirs de dévote à confesse, il fit des aveux. Bien des choses passaient sous ses yeux qu'il ne pouvait défendre, qui le désolaient. Le roi était mal entouré. Et poi, che volete ? Il n'avait pas la vocation de régner, pas le goût du trône. Il ne l'avait jamais eu. Ainsi, tenez, je me rappelle, il y a bien longtemps de ça, du vivant de feu Léopold, lorsque le roi eut sa première attaque en sortant de table et qu'on vint dire à Christian qu'il allait sans doute succéder à son oncle, l'enfant, il avait 12 ans à peine et jouait au croquet dans le patio de la résidence, l'enfant se mit à pleurer, une vraie crise de nerfs. Il disait « Je ne veux pas être roi, je ne veux pas être roi, qu'on mette mon cousin Stanislas à ma place !» Je me suis rappelé bien souvent, en la retrouvant dans les yeux de Christian II, l'expression effarée et peureuse qu'il avait ce matin-là, cramponné de toutes ses forces à son maillet, comme s'il avait peur qu'on l'emportât dans la salle du trône, en criant « Je ne veux pas être roi !» Tout le caractère de Christian s'expliquait par cette anecdote. Et non, sans doute, ce n'était pas un méchant homme, mais un homme enfant, marié trop jeune, avec des passions bouillonnantes et des vices d'hérédité. La vie qu'il menait, les nuits au cercle, les filles, les soupers, c'est dans un certain monde le train normal des maris. Tout s'aggravait de ce rôle de roi qu'il ne savait pas tenir, de ses responsabilités au-dessus de sa taille et de ses forces, et surtout de cet exil qui le démoralisait lentement. De plus solide nature que la sienne, ne savent pas résister à ce désarroi des habitudes rompues, de l'incertitude renouvelée, avec l'espoir insensé, les angoisses, l'énervement de l'attente. Comme la mer, l'exil a sa torpeur, il abat et engourdit. C'est une phase de transition. On n'échappe à l'ennui des longues traversées que par des occupations fixes ou des heures d'études régulières. Mais à quoi peut s'occuper un roi qui n'a plus de peuple, de ministre, ni de conseil, rien à décider, à signer, et beaucoup trop d'esprit ou de scepticisme pour s'amuler au simulacre de toutes ces choses, beaucoup trop d'ignorance pour tenter une diversion vers quelque autre travail assidu? Puis l'exil, c'est la mer, mais c'est aussi le naufrage, jetant les passagers des premières, les privilégiés, pêle-mêle avec les passagers du pont et de la belle étoile. Il faut un fier prestige, un vrai tempérament de roi, pour ne pas se laisser envahir par les familiarités, les promiscuités dégradantes dont on aura plus tard à rougir et à souffrir, pour se garder roi au milieu des privations, des détresses, des souillures qui mêlent et confondent les rangs dans une misérable humanité. Hélas, cette bohème de l'exil, dont le duc de Rosen l'avait si souvent préservée au prix de grands sacrifices, commençait à envahir la maison d'Illyrie. Le roi en était aux expédients pour payer les frais de sa fête. Il commençait par faire des billets comme un fils de famille, trouvant cela tout aussi simple et même plus commode, « J'y tombe les vis aidant, que c'est bon sur notre cassette », qu'il adressait autrefois au chef de la maison civile et militaire. Les billets arrivaient à l'échéance, s'augmentaient d'une foule de renouvellements, jusqu'au jour où Tom Lévis, se trouvant à sec, inventait ce joli trafic des brevets, le métier de roi sans peuple ni liste civile ne présentant pas d'autres ressources. Le pauvre lion d'Illyrie, dépecé comme un vil bétail, fut séparé en quartiers et en tranches, vendu à la criée et à l'étal, à tant la crinière et la noix, le plat de côte et les griffes. Et ce n'était que le commencement. Dans le cap de Tom Lévis, le roi n'allait pas s'arrêter en si belle route. C'est ce que se disait Méraud en descendant de chez Boscovitch. Il voyait bien qu'on ne pouvait faire aucun fond sur le conseiller, facile à prendre comme tous les gens qui ont une manie. Lui-même était trop nouveau, trop étranger dans la maison pour avoir quelque autorité sur l'esprit de Christian. S'il s'adressait au vieux Rosen. Mais au premier mot du précepteur, le duc lui lança le terrible regard des religions offensées. Le roi, si bas tombé qu'il pût être, restait toujours le roi pour celui-là. Nulle ressource non plus du côté du moine, dont le fauve visage n'apparaissait qu'à de longs intervalles entre deux voyages, chaque fois plus hâlé et plus maigre. La reine, mais il la voyait si triste, si fiévreuse depuis quelques mois, son beau front discret, toujours nuagé d'un souci, quand elle arrivait aux leçons, qu'elle n'écoutait plus que distraitement, l'esprit absent, le geste suspendu sur son ouvrage. De graves préoccupations l'agitaient, étranges pour elle, et l'atteignant d'en bas, des préoccupations d'argent, l'humiliation de toutes ses mains tendues qu'elle ne pouvait plus remplir. Fournisseur, nécessiteux, compagnon d'exil et d'infortune, ce triste métier de souverain à décharge, même alors qu'il n'a plus de droit. Tous ceux qui avaient appris le chemin de la maison prospère attendaient maintenant pendant des heures aux antichambres et souvent, fatigués d'attendre, s'en allant avec des mots que la reine devinait sans les entendre, dans leur démarche de mécontents, dans leur lassitude de gens trois fois renvoyés. C'est qu'elle essayait vraiment de mettre de l'ordre dans leur nouveau train de vie. Mais le malheur s'en mêlait, de mauvais placements, des valeurs paralysées. Il fallait attendre ou tout perdre. Pauvre reine Frédérique, qui croyait tout connaître en fait de souffrance, il lui manquait ces détresses qui fanent, le contact dur et blessant de la vie banale et quotidienne. Il y avait des fins de mois auxquelles elle songeait la nuit en frissonnant comme un chef de maison de commerce. Parfois, les gages des domestiques se trouvant arriérés, elle craignait de comprendre, dans le retard d'un ordre, dans un regard un peu moins humble, le mécontentement d'un serviteur. Enfin, elle connaissait la dette peu à peu harcelante, et qui force de l'insolence de ses poursuites les portes les plus hautes, les mieux dorées. Le vieux duc, grave et muet, épiait toutes les angoisses de sa reine, rôdait autour d'elle comme pour dire « Je suis là ». Mais elle était bien décidée à tout épuiser avant de reprendre sa parole, avant de s'adresser à celui qu'elle avait écrasé d'une aussi fière leçon. Un soir, on veillait au grand salon, veillée monotone et toujours la même, qui se passait du roi comme à l'ordinaire. Sous les flambeaux d'argent, la table de whist s'installait, ce qu'on appelait le jeu de la reine. Le duc en face de sa majesté, avec Madame Éléonore et Boscovitch pour adversaires. La princesse pianotait en sourdine quelques-uns de ses échos d'Illyrie, que Frédéric ne se lassait jamais d'entendre et qu'au moindre signe satisfait, la musicienne accentuait en chant de guerre ou de bravoure. Ces évocations de la patrie, amenant sur le visage des joueurs un sourire mouillé, une expression héroïque, rompaient seule l'atmosphère d'exil résigné, d'habitude prise, dans ce riche salon de bourgeois, abritant des majestés. 10 heures sonnèrent. La reine, au lieu de remonter dans ses appartements comme tous les soirs, donnant par son départ le signal de la retraite, promena un regard distrait autour d'elle. « Vous pouvez vous retirer, j'ai à travailler avec M. Méraud. » Élisée, occupée à lire près de la cheminée, s'inclina en fermant la brochure qu'il feuilletait et passa dans la salle d'études pour prendre des plumes, de l'encre, de quoi écrire. Quand il revint, la reine était seule, écoutant les voitures rouler dans la cour, pendant que se refermait le grand portail et que, par les couloirs, les escaliers de l'hôtel sonnaient les allées et venues qui précèdent dans une maison nombreuse l'heure du repos. Le silence se fit enfin, le silence agrandi de deux lieues de bois, amortissant dans le bruit du vent, dans les feuilles, les rumeurs lointaines qu'envoyait Paris. Le salon désert, encore tout éclairé dans ce calme de solitude, semblait prêt pour quelque scène tragique. Frédéric, accoudé à la table, repoussa de la main le buvard préparé par Méraud. « Non, non, nous ne travaillons pas ce soir, » fit-elle. « C'était un prétexte. Asseyez-vous et causons. » Puis, plus bas, « J'ai quelque chose à vous demander. » Mais ce qu'elle avait à dire lui coûtait probablement beaucoup, car elle se recueillit une minute, la bouche et les yeux mi-clos, avec cette expression profondément vieillie et douloureuse qu'Élisée lui avait vue autrefois et qui lui faisait paraître ce beau visage encore plus beau, marqué de tous les dévouements, de tous les sacrifices, creusé dans ses lignes pures par les plus purs sentiments de la reine et de la femme. C'était un respect religieux qu'elle lui inspirait ainsi. Enfin, reprenant tout son courage, très bas, timidement, en mettant ses mots l'un après l'autre, comme des pas craintifs, Frédéric lui demanda s'il ne savait pas à Paris un de ces endroits où l'on prêtait sur gage. Demandez cela à Élisée, à ce grand bohème qui connaissait tous les monts de piété parisiens, s'en était servi depuis 20 ans comme de réserve où il mettait l'hiver ses vêtements d'été, l'été ses vêtements d'hiver. S'il connaissait le clou, s'il connaissait ma tante, dans ses souvenirs de jeunesse, cet argot de misère revenant le faisait un moment sourire. Mais la reine continuait, en essayant de raffermir sa voix. « Je voudrais vous confier quelque chose pour porter là, des bijoux. On a des moments difficiles. » Et ses beaux yeux, levés maintenant, découvraient un profond abîme de douleur calme et surhumaine. Cette misère des rois, tant de grandeurs humiliées, est-ce que c'était possible? Méraud fit signe de la tête qu'il était prêt à se charger de ce qu'on voudrait. S'il avait dit un mot, il aurait sangloté. S'il avait fait un geste, c'eût été pour tomber aux pieds de cette auguste détresse. Et pourtant, son admiration commençait à s'attendrir de pitié. La reine, à présent, lui semblait un peu moins haute, un peu moins au-dessus des vulgarités de l'existence, comme si, dans le triste aveu qu'elle venait de faire, il avait senti passer un accent de bohème, quelque chose qui était le commencement d'une chute et la rapprochait de lui. Tout à coup, elle se leva, alla prendre dans la boîte de cristal de roche l'antique relique oubliée qu'elle posa sur le tapis de la table comme une poignée de joyaux de tout rayon. Élisée tressaillit. La couronne. Oui, la couronne. Voilà 600 ans qu'elle est dans la maison d'Illyrie. Des rois sont morts, des flots de sang gentilhomme ont coulé pour la défendre. À présent, il faut qu'elle nous aide à vivre. Il ne nous reste plus que cela. C'était, en vieil orphin, un magnifique diadème fermé dont les cercles, rehaussés d'ornements, venaient se rejoindre au-dessus de la calotte en velours incarnat. Sur les cercles, sur le bandeau de filigrane torsadé, au cœur de chaque fleuron imitant les fibres de la feuille du trèfle, à la pointe des arcades festonnées à jour et supportant ces fleurons, s'en chassaient toutes les variétés de pierres connues, le bleu transparent des saphirs, le bleu velouté des turquoises, l'aurore des topazes, la flamme des rubis orientaux, et les émeraudes comme des gouttes d'eau sur les feuilles, et l'opale cabalistique, et les perles d'iris laiteux, mais les surpassant tous, les diamants partout jetés, résumés dans leurs facettes, ces mille feux nuancés, et comme une poussière lumineuse dispersée, un nuage traversé de soleil, fondait, adoucissait l'éclat du diadème déjà poncé par les siècles, avec des rayonnements doux de lampes de vermeil au fond d'un sanctuaire. La reine posa son doigt tremblant là et là. « Il faudrait faire sauter quelques pierres, les plus grosses. »« Avec quoi ?» Il parlait à voix basse comme deux criminels, mais ne voyant rien dans le salon qui pût convenir, « Éclairez-moi, » dit Frédéric. Ils passèrent dans la véranda vitrée où la haute lampe promenait, découpait des ombres fantastiques et une longue traînée de lumière allant se perdre sur les pelouses dans la nuit du jardin. « Non, non, pas des ciseaux » murmura-t-elle en le voyant se diriger vers sa corbeille à ouvrage. « Ce n'est pas assez fort. J'ai essayé. » Enfin, ils découvrirent sur la caisse d'un grenadier, dont les fins branchages cherchaient contre la vitre le clair de lune, un sécateur de jardinier. Revenus tous deux au salon, Élisée essaya d'enlever avec la pointe de l'instrument un énorme saphir ovale que la reine lui désignait. Mais le cabochon, solidement serti, résistait, glissait sous le fer, inébranlable dans sa griffe. D'ailleurs, la main de l'opérateur, craignant d'abîmer la pierre ou de dessouder le chaton qui portait en rayures sur son or les traces de précédentes tentatives, n'était ni forte ni sûre. Le royaliste souffrait, s'indignait de l'outrage qu'on lui faisait faire à la couronne. Il la sentait frémir, résister, se débattre. « Je ne peux pas, je ne peux pas !» répondit-il en essuyant la sueur qui mouillait son front. La reine répondit « Il le faut, mais cela va se voir !» Elle eut un fier sourire d'ironie. « Se voir, est-ce qu'on la regarde seulement ? Qui donc y songe ? Qui s'en occupe ici, excepté moi ?» Et tandis qu'il reprenait sa tâche, la tête penchée toute pâle, ses grands cheveux dans les yeux, broyant entre ses genoux le royal diadème que le sécateur dépeçait, déchiquetait, Frédéric, la lampe haute, surveillait l'attentat, aussi froide que ses pierres qui luisaient avec des morceaux d'or sur le tapis de la table, intactes et splendides malgré l'arrachement. Le lendemain, Élisée, qui était restée dehors tout le matin, rentra après le premier coup du déjeuner, s'assit à table, ému, troublé, se mêlant à peine à la conversation dont il était ordinairement la lumière et l'entrain. Cette agitation gagna la reine sans altérer en rien son sourire ni la sérénité de son contralto. Et le repas fini, ils furent longtemps encore avant de se rapprocher, de pouvoir causer entre eux librement, gardés à vue par l'étiquette et les règlements de vie installés dans la maison, le service de la dame d'honneur, la jalouse surveillance de madame de Silvis. Enfin, la leçon arriva. Pendant que le petit prince installé préparait ses livres, « Qu'avez-vous ? » demanda-t-elle. « Que m'arrive-t-il encore ?»« Ah, madame, toutes les pierres sont fausses. »« Fausses ?» Et très soigneusement imitées en clinquant. « Comment cela s'est-il fait ? Quand ? Par qui ? Il y a donc un malfaiteur dans la maison ?» Elle avait pâli atrocement à ce mot de malfaiteur. Soudain, les dents serrées, avec un coup de colère et de désespoir dans les yeux, « C'est vrai, il y a un malfaiteur ici, et vous et moi, nous le connaissons bien. » Puis, d'un geste de fièvre, prenant violemment le poignet d'Élisée comme pour un pacte connu d'eux seuls, « Mais nous ne le dénoncerons jamais, n'est-ce pas ?»« Jamais, » dit-il en détournant les yeux. Car d'un mot, il s'était compris.